7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Je demande à toutes les filles de se battre chaque jour pour que chaque petite fille puisse aller et rester à l'école, puis au collège, puis au lycée. L'accès à l'éducation des filles est un combat, le combat pour un avenir meilleur. Et je demande aussi aux parents de réparer l'injustice et mettre fin à la discrimination entre filles et garçons.
Et en quoi c'est un combat d'aller à l'école quand on est fille?
Et les filles sont considérées comme inférieures. Tout est fait pour conforter la petite fille dans sa faiblesse. Si une fille sort un peu, on lui interdit. Elle est éduquée pour les travaux ménagers, la cuisine et les ménages. C'est en vie uniquement à la mariée. Moi-même, j'ai le courage de faire mon étude et je vais être une grande médecine. Éduquer une fille, c'est éduquer toute la nation.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Les pays du G7 viennent de se réunir à Biarritz, en France, et parmi les discussions, le Sahel et l'accès des filles à l'éducation étaient bien présents dans l'agenda des politiques de développement, même si les ONG ont exprimé leur déception quant aux faibles engagements. La lycéenne que vous venez d'entendre est à N'Djamena, au Tchad, un pays où les filles sont en première ligne dans la crise de l'éducation. Dans le monde, une fille sur cinq n'a toujours pas accès à l'école et moins de 40% des filles achève le cycle primaire en Afrique subsaharienne selon l'UNESCO. Pourtant, l'éducation des filles est une priorité parmi les objectifs du développement durable. Les filles à l'école au Sahel, comment en finir avec les inégalités? C'est un reportage au Tchad de Raphaël Constant. Bonjour Raphaël.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Vous vous êtes rendu à N'Djamena à l'occasion de la première conférence internationale sur l'éducation des filles et la formation des femmes dans l'espace francophone, qui était organisée par l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie, et l'État tchadien, c'était en juin dernier.
Oui, une rencontre qui a réuni plus de 400 participants venus d'une trentaine de pays de l'espace francophone pour explorer les causes, les défis de l'exclusion des filles de l'école et pour partager les bonnes pratiques mises en œuvre dans les pays d'Afrique francophone pour lutter contre ces discriminations. Ce qu'il faut savoir, Emmanuel, c'est qu'au sud du Sahara, 9 millions de filles de 6 à 11 ans n'iront jamais à l'école. Alors où est-ce qu'on en est? Au Tchad, pour avoir un aperçu des problématiques quotidiennes, des écolières et des encadrants pédagogiques, j'ai rencontré l'ONG tchadienne PADIES, une ONG spécialisée dans la qualité de l'éducation qui appuie 50 écoles primaires à N'Djamena, la capitale, et à Moundou, au sud du pays. Il est 8h30 quand j'arrive dans les locaux situé dans le quartier de Moussar.
Bonjour.
Enchanté de faire votre connaissance. Comment ça va?
Ça va et vous?
Directement de Paris. Allahu Akbar. Fadel. Prenez place.
Merci.
Je m'appelle Babal Kher Daoud, coordonnateur zone PAKEP N'Djamena. On travaille avec les enseignants, les parents d'élèves, les associations des mères éducatrices. Nous avons demandé aux enseignants, on a signé un contrat de performance. Quand à la fin de l'examen, une fille réussit, il faut lui donner quelques fournitures, des livres, des cahiers, pour lui permettre de faire plus. Et cela nous a aussi amené à essayer d'organiser des formations sur la charte scolaire. C'est un document, c'est une sorte d'engagement que les parents, les élèves, filles et garçons, les enseignants s'engagent à maintenir les élèves à l'école, à ne pas faire de différenciation entre filles et garçons, que les filles ne se sentent pas marginalisées, que les garçons aident leurs collègues filles à faire mieux, à ne pas se moquer d'elles quand elles vont au tableau. Les garçons et les filles doivent faire les mêmes travaux, hein, et les parents, eux, ils s'engagent à envoyer leurs filles à l'école.
Et ça passe par quoi, justement, quand on encourage sa fille à rester à l'école? Uh-huh. Ça passe par quoi, par exemple?
La maman, à la maison, doit veiller. Quand sa fille revient, par exemple, elle ne va pas seulement la voir rester dans la cuisine. Elle va lui demander de voir son cahier. Mais si seulement la maman ne se sent pas concernée, la fille peut ne pas aller à l'école.
Donc vous, vous sensibilisez les mamans, les mères, via une association des mères éducatrices.
D'élèves, tout ça pour que les élèves filles soient maintenus à l'école.
Et pour vous, c'est quoi le plus difficile?
C'est l'ignorance des parents et c'est les pesanteurs socioculturels qui font que certains parents ne veulent pas envoyer leurs filles. Hein? Donc, il faut les sensibiliser en leur donnant des exemples. Qu'aujourd'hui, les femmes sont égales aux hommes. On a des femmes ministres, on a des femmes directrices d'école, des infirmières. On donne des exemples comme ça. Avec le temps, si la fille continue, elle, un jour, elle deviendra comme ces femmes-là.
Alors justement, est-ce que vous pouvez m'emmener aujourd'hui visiter ces écoles?
On va aller au site de la léproserie.
Je vous suis.
Ah, ok. Voilà.
Daoud, où est-ce qu'on vient d'arriver?
Nous sommes arrivés dans l'enceinte de l'école de la léproserie.
C'est une école publique francophone?
C'est une école publique.
C'est un grand bâtiment avec des volets verts.
Oui.
Donc on voit à peu près 5 salles de cours. Il n'y en a qu'on pas de toit. On va rencontrer l'inspecteur alors. Bonjour.
Je m'appelle Nguemadibé Nanina. Je suis inspecteur pédagogique de l'enseignement primaire du 7e arrondissement C. Sur 19 679 élèves, on a 10 899 filles, ce qui représente un pourcentage de 55,37%.
Et il y a combien d'écoles pour accueillir tous ces élèves?
On a une bagatelle de 53 écoles.
Et justement, ça coûte combien les frais de scolarité?
Officiellement, c'est 2000 francs. 1000 francs pour l'APE, qui est l'association des parents d'élèves, et 1000 francs pour le COGES. Comité de gestion des établissements scolaires.
Et ça, c'est sans compter les frais pour les manuels scolaires, les cahiers, les stylos, tout ça?
Non. Le matériel didactique, depuis, je crois, 2 ou 3 ans, par rapport à la crise que le pays a connue, je crois qu'il y a une rupture dans le domaine de la dotation en manuel comme en fourniture scolaire. C'est un peu difficile. Mais maintenant, le gouvernement même est en train d'œuvrer pour la scolarisation des filles. C'est pourquoi ils ont créé même une direction de la promotion de la scolarisation des filles, qui est logée sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale.
Concrètement, vous, sur le terrain, est-ce que vous avez l'impression que ça amène plus de filles à l'école? Ou en tout cas que les filles restent à l'école? C'est aussi ça la question, c'est le maintien des filles.
Le problème ici, c'est le maintien. Sinon, les filles, elles viennent nombreuses à l'école. Je crois que... arrivé à un certain âge, les gens préfèrent envoyer leurs filles en mariage. D'autres qui ont beaucoup d'enfants, ils préfèrent envoyer les garçons au détriment des filles. Parce qu'il y a des filles dont les parents n'ont pas assez de moyens pour les inscrire à l'école. Le papa, il dit, il n'a pas d'argent. Il préférera plutôt inscrire le garçon que d'inscrire la fille.
Est-ce qu'on peut visiter l'école?
Pas de problème.
Eh bien, je vous suis alors.
Bonjour madame. Bonjour madame. Si tu veux être propre, si tu veux être propre, chante.
Si tu veux être propre, il faut bien se laver les mains avant de manger, se laver les mains à la sortie de toilette.
Oui, je suis Madame Yakos, je suis chargée de cours. Oui, on a chanté, c'est sur l'hygiène. Comme c'est des petits enfants de sapin, donc il faut leur apprendre par la chanson, soit par la récitation.
Et vous avez combien d'élèves dans votre classe?
J'ai 92 élèves.
C'est beaucoup.
48 filles et 44 garçons. Avant, on a beaucoup de filles. Entre-temps, les parents n'ont pas bien compris. Donc, c'est les garçons seulement, on les envoyait plus. Mais maintenant, ils ont compris là. On a beaucoup de filles maintenant à l'école.
Pour vous, c'est quoi le plus difficile pour l'éducation des filles?
Oui, pour nous, l'éducation des filles, c'est ce qui est difficile. Et on a les problèmes, les manques de documents. Les salles des classes, même vous avez vu dans quel état je travaille aussi.
On est dans une classe qui ne ferme pas et le toit, c'est de la tôle.
Tôle, oui, mais ils ont mis les secours.
La paille.
La paille.
Et pour protéger du soleil.
Pour protéger du soleil. Et maintenant, avec l'autre, le vent a emporté presque les secours. Il n'y a pas de table-banc. Donc, on a fait de mieux qu'on a construit les briques comme ça pour leur permettre de rester seulement. Sinon, pour les filles, maintenant, elles sont là. Elles travaillent au même titre que les garçons. Maintenant, même pendant les compositions, même là, c'est les filles qui prennent en tête encore.
Les filles ont des meilleures notes ?
Meilleures notes, les filles ont des meilleures notes. Les filles qui travaillent. Elles n'ont même pas froid aux yeux, vous les appelez, elles sont là. Chaque intervention, là, elles sont là.
Et vous, en tant qu'enseignante, oui. Comment vous pouvez faire pour favoriser l'éducation des filles ?
Bon, il faut qu'il y ait une grande sensibilisation au niveau des parents. Et là, on doit expliquer aux parents la nécessité de l'école, la nécessité de mettre une fille à l'école.
C'est les parents le premier frein à l'éducation des filles, vous pensez ? À la scolarisation des filles ?
C'est oui ! Parce que quand le papa n'est pas sensibilisé, la maman n'est pas sensibilisée, sinon là, il garde sa fille à la maison. Je ne peux pas aller de moi-même prendre la fille. C'est comme ça.
Merci.
Voilà. Merci beaucoup.
Bonne journée. Au revoir. On dit quoi ?
Vous allez trouver les AME là aussi, hein. L'association des mères éducatrices. Là, là c'est rien que des femmes.
Hein. Bonjour madame.
Bonjour. Je suis l'animatrice du projet PAKEP. On est là ici pour la formation des mères éducatrices.
C'est quoi ce projet? Ça consiste en quoi concrètement?
La formation aussi, ça aide les mères à sensibiliser les filles à être nombreuses dans les écoles pour leur réussite. Les femmes se mobilisent. Si les femmes partent porte par porte pour sensibiliser et qu'ils aient des cotisations, c'est que le projet des associations des mères d'élèves est en train de prendre sa place dans les écoles. Par exemple, ces écoles, il y a beaucoup de filles. Mais arriver l'année prochaine pour passer dans les sixièmes, le nombre diminue. Et le mariage précoce, ce genre de choses, c'est ça où le PAKEP est en train de former les AME pour lutter contre cet mariage précoce. Et eux-mêmes, chaque samedi, ils convoquent les filles de CM1, de CM2, pour les sensibiliser. Parce qu'à cet âge, arrivé au 6e, les filles ne fréquentent pas. Le nombre de pléthores de filles diminue.
Bonjour.
Bonjour, je m'appelle Dotombra Claire.
Et vous suivez la formation du PAKEP sur l'association des mères éducatrices, c'est ça?
Oui, l'association des mères éducatrices est mise en place en juillet 2013 dans cet établissement. Bon, ce que nous on fait dans toutes les associations, il y a une cotisation des membres, du bureau, tout ça. Donc c'est au vu de nos cotisations qu'on vient en aide aux filles, les diminue surtout. Celles qui n'ont pas de parents, celles qui sont là. Donc si on peut les inscrire un ou deux, trois, quatre par an, c'est déjà quelque chose de bien. Et on les suit aussi jusqu'à classe de CM2.
Et est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes filles aussi qui ont des problèmes de violence, d'agression quand elles vont à l'école? Est-ce que ça fait partie des problèmes pour lesquels les filles ne viennent pas?
Voilà, l'agression, là, ça ne manque pas partout, il y en a. Il y a brassage de part et d'autre, donc c'est plus qu'encore. Il y en a.
Mais c'est quoi les problèmes de violence?
Des situations, quelquefois, bon, il y a des grossesses indésirées, des hommes qui les violent. Et puis, quand elle est violée, elle a honte, elle ne peut pas se présenter parmi les autres. Elle se décourage, elle ne vient pas à l'école. Des bébés, elles doivent laisser à la maison, continuer toujours pour poursuivre leurs études. Et à travers les études, elles peuvent aussi réussir. Au lieu de compter sur les biens matériels que les hommes utilisent pour les violer, les gâter.
Est-ce que vous voulez dire qu'il y a des hommes qui mettent en avant les biens matériels pour profiter
gâter,
des filles?
Pour les gâter leur vie. C'est dans les études que la fille peut réussir mieux et se prendre en charge. Donc, c'est les conseils qu'on pourra donner à nos filles à la maison.
Qu'est-ce qui reste à faire alors?
Beaucoup. Beaucoup. Plus de mamans et plus de sensibilisation, même au niveau des parents, au niveau des éducateurs et puis ainsi de suite. Le chemin est encore long.
Si les défis dans la zone subsaharienne sont nombreux, Raphaël, le problème des violences de genre, des mariages, des grossesses précoces représente encore des vrais freins à la scolarisation des filles.
Oui, tout à fait. En Afrique occidentale et centrale, 4 filles sur 10 sont mariées avant leurs 18 ans et par conséquent, elles quittent l'école. Au Tchad, l'Assemblée nationale a voté une ordonnance qui interdit le mariage des enfants et pourtant, encore 3 filles sur 5 sont mariées avant l'âge de 15 ans et 4 filles sur 5 avant 18 ans. Il y a des lois contre la discrimination des filles, mais aujourd'hui, le gros défi, c'est de faire connaître ces lois et de les faire appliquer.
Selon l'Agence française de développement, les États du Sahel ont fait quand même des efforts, des progrès pour améliorer leur taux de scolarisation dès l'accès à l'école primaire.
Effectivement, au Tchad, il y a une vraie volonté du gouvernement de prendre le problème à bras-le-corps, et ce, dès l'entrée à l'école, mais avec quels moyens? Rappelons-le, le Tchad est le 5e pays le plus pauvre au monde et moins de 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Sur 100 filles qui entrent au primaire, seulement une vingtaine l'achèvent. Et dans ce pays où 86% des femmes sont analphabètes, le gouvernement alloue 15% du budget de l'État à l'éducation et en comparaison 30% à la sécurité.
Le Partenariat mondial pour l'éducation recommande que chaque pays dépense au minimum 20% de son budget global dans le secteur de l'éducation. Donc le Tchad ne respecte pas ses engagements.
Le PME finance quand même l'école tchadienne à hauteur de 50 millions de dollars. Et Gali Dibé, directeur général au sein du ministère de l'Éducation nationale, nous explique quels sont les efforts faits au Tchad.
Depuis 1990 jusqu'en de nos jours, nous avons constaté que le taux de participation des filles, c'est-à-dire la proportion des filles dans le système, est passé de 34% à 43%.
Au primaire.
Au primaire. Oui, c'est une participation vraiment faible parce que de nos jours, ne pas atteindre l'égalité avec cette proportion, ça montre l'ampleur ou bien l'effort à faire pour avoir l'égalité de sexe dans la participation. Et nous avons plus de 75% de la population qui est rurale. La ruralité, c'est presque synonyme de pauvreté ici. Du coup, plus on est pauvre, plus on n'a pas la possibilité d'accès à l'école, plus on est vulnérable. Mais ça fait des décennies que nous sommes dans cette problématique de scolarisation des filles. Si nous avons su attaquer le problème à la base, je crois qu'on aurait fait beaucoup plus de bon que maintenant. J'ai fait allusion à l'alphabétisation des parents. Vous savez, plus le parent est alphabétisé, plus il est disposé à connaître l'intérêt d'envoyer sa fille à l'école. 78% de la population tchadienne âgée de 15 ans et plus est analphabète. Et là, c'est quand même un problème sérieux pour un pays qui se veut émergent.
Il y a d'autres problèmes aussi qui sont la cause du décrochage scolaire ou de l'abandon. On parle beaucoup des mariages précoces, des grossesses précoces, du manque de matériel dans les écoles, d'enseignants aussi. Alors comment et quelles politiques et stratégies vous pouvez développer, l'État peut développer pour accroître l'accès à l'école, réduire ce taux d'abandon, d'échec, de redoublement et surtout maintenir les filles à l'école?
C'est vrai, notre système a de sérieux problèmes, n'est-ce pas, au sein du ministère. Nous avons une vision pour une éducation beaucoup plus inclusive, accessible pour tout le monde. Parce que c'est un droit universellement reconnu. Mais l'applicabilité devient un problème. Dans la mesure où le gouvernement, il y a des règles, des procédures dans sa manière de pouvoir mobiliser des ressources et tout ça, le gouvernement manque de ressources pour le moment, mais nous avons une stratégie qui existe, qui est sur 3 ans. Nous allons construire au moins 450 salles de classe. Nous allons équiper les élèves à hauteur de 7,2 millions de manuels scolaires. Et nous allons former au moins 10 000 enseignants par an. Nous sommes en train de former des maîtres communautaires.
Et comment vous incluez les filles dans cette stratégie temporaire?
Nous prévoyons, par exemple, l'équipement des filles en tenue scolaire, développer des cantines dans les zones où le problème de déficit céréalier se pose, de manière à ce que l'élève ou bien la fille ne puisse pas se sentir dans une situation où elle a faim et puis elle rentre et puis elle ne revient plus. C'est des mesures d'incitation. Si l'élève, pour des raisons de pauvreté, n'arrive pas à avoir une tenue. Pour l'élève fille, ça peut constituer une honte. Ça, c'est connu de tous. Et ce qui fait que la fille se sentira mieux à l'aise. Et l'autre aspect de la chose, c'est qu'il faudrait que la fille ne se sente pas naturellement marginalisée. Ça, c'est très important. Et il faut trouver des stratégies pour aller vers les populations cibles de manière à ce qu'ils se sentent dans une demande parfaite de scolarisation des filles.
Marginalisés et vulnérables, parce que les écoles sont surbondées d'enfants. Généralement, on parle de regroupement. J'ai vu des quartiers où les écoles sont regroupées de tout niveau, donc des garçons plus âgés que des petites filles, qui déjà prennent un risque en prenant le chemin de l'école et en plus sont vulnérables à l'école. Comment vous pouvez rendre la politique de développement et d'éducation efficace ?
Il y a beaucoup de choses qui ont été faites et l'effort du gouvernement est aussi fortement relevé. C'est 3 filles scolarisées pour 4 garçons. Et donc, c'est des progrès. Et les partenaires également nous appuient dans ce sens pour la scolarisation des filles, en les appuyant par exemple en kit de dignité, en les dotant des manuels scolaires de façon gratuite. Ça engendre quand même un mouvement qui amène les filles à aller de l'avant. Et donc, c'est dans ce sens que les partenaires nous viennent également à l'appui pour pouvoir rendre beaucoup plus visible cette mobilisation en faveur de la scolarisation des filles.
Je me nomme Moussa Boubacar Ba, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation du Mali. La scolarisation des filles au Mali, comme dans tous les pays de l'Afrique subsaharienne, se présente de la même manière. Il y a beaucoup de zones dans le Mali, jusqu'à présent, qui hésitent d'amener leurs enfants dans les établissements publics laïcs pour des raisons religieuses et pour des raisons aussi de père. Parce qu'il y a des parents qui ont peur en pensant que les enfants, une fois scolarisés dans les structures publiques laïques, elles vont perdre certaines de leurs valeurs. Au Mali, le système pédagogique n'est pas compris par tous les parents. Donc d'où la nécessité aujourd'hui d'aller vers un enseignement bilingue qui va permettre aux parents d'être sûrs d'envoyer leurs enfants dans des établissements qui vont former ces jeunes enfants comme le veulent les parents. Donc moi je pense que ça peut être la solution. Pour le cas spécifique du Mali aussi, il y a une difficulté particulière liée au phénomène de l'insécurité. Aujourd'hui il y a plus de 9000 écoles qui sont fermées, surtout au centre et au nord du Mali. Ça fait à peu près 4 ans dans certaines localités, l'État n'arrive pas à assurer la sécurité pour permettre aux enseignants d'aller enseigner. C'est l'une des questions principales dans tous les États du Sahel. Comme vous le savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'Arabes au Nigeria. Au Niger, il y a un problème de radicalisation. Au Burkina, c'est très inquiétant. Le Mali, on n'en parle pas. Une partie du Cameroun, du Tchad. Donc la problématique se pose à tous les États.
Et comment faire ?
Le Mali a fait beaucoup d'efforts. Et le Mali a alloué 30% de son budget à l'éducation. Donc moi je pense que la solution immédiate aujourd'hui, c'est d'encourager le peu de femmes qu'on a déjà qui ont avancé dans leur scolarité. Le mieux c'est de créer toutes les conditions pour qu'il y ait une solidarité dans la formation et dans l'éducation des femmes. Les pays du Nord qui sont francophones aujourd'hui ont beaucoup de moyens, ils n'ont pas de difficultés par rapport à la formation, par rapport à l'éducation des enfants. Donc ces pays aujourd'hui peuvent ouvrir, même en faisant des dérogations pour la formation des femmes qui ont atteint un certain niveau. Donc si ces femmes retournent dans leur pays, elles seront imitées par d'autres femmes et même les parents pour dire que voilà, ces filles-là ont été à l'école il y a 10-15 ans. Aujourd'hui, elles reviennent avec un diplôme, elles ont eu un poste, elles sont devenues ministres, députées, ainsi de suite. Donc ça peut être un facteur d'incitation pour que les parents amènent les enfants à l'école.
Pour l'inclusion des filles, effectivement, dans la société.
Le problème des filles et des femmes, c'est un débat dans toute la société. Et je ne pense pas s'il y a une société qui peut prétendre résoudre ces problèmes d'une façon définitive. Nos sociétés sont basées sur un certain nombre de traditions et de valeurs. Et souvent, en vouloir aller trop vite, nous risquerons d'heurter certaines sensibilités. Ça va risquer même de mettre en cause tout ce qu'on est en train de faire. C'est pour cela que nos États vont doucement, mais très sûrement. Mais peut-être à l'extérieur, les gens ne comprennent pas beaucoup parce qu'il y a une vision unilatéralisme de l'éducation de la fille et de la femme, des droits de la femme. Peut-être vous, les Occidentaux, n'ont pas connu pratiquement les mêmes histoires que nous. Vous avez votre difficulté, vos histoires, et je pense que les solutions aussi ne seront pas les mêmes.
Qu'est-ce que vous, au Mali, vous demandez comme engagement à la communauté internationale ?
La question fondamentale qui préoccupe aujourd'hui le Mali, c'est la question de l'insécurité. Et cette question est en train de prendre raison sur toutes les autres questions. Nous avons un budget qui n'a pas évolué depuis plus de 10 ans, mais il y a de nouvelles dépenses. Donc il faut que la communauté internationale comprenne cela. Et si elle arrive à prendre aujourd'hui une partie de l'effort de guerre que le Mali pratiquement alloue la moitié de son budget aujourd'hui, et ce budget va permettre au Mali d'investir dans l'éducation, d'investir dans la promotion des filles et la formation des femmes. La place de la femme dans la société malienne est extrêmement importante et très prépondérante pour tout projet de développement. Et les victimes les plus nombreuses aujourd'hui, c'est les femmes et les enfants. Si on veut que ces filles continuent à aller à l'école, il faut faire tout pour que la paix revienne dans ces zones-là. Sans la paix, on va rester longtemps dans ce statu quo.
Vous écoutez 7 milliards de voisins sur RFI. Reportage de Raphaël Constant. Les filles à l'école au Sahel, comment en finir avec les inégalités? Alors justement, Raphaël, quelles sont les mesures au Mali pour l'éducation des filles?
Au Mali, en principe, les filles enceintes sont aujourd'hui autorisées à poursuivre leur scolarité pendant leur grossesse, alors qu'avant, elles étaient automatiquement exclues. Toute la question est quand même de savoir si les filles enceintes ne s'excluent pas elles-mêmes, ou en tout cas leur famille. Deuxièmement, les filles sont désormais autorisées à tripler une classe, contrairement aux garçons qui ne peuvent que redoubler. Et enfin, des bourses d'excellence pour étudier à l'étranger sont accordées aux filles.
Raphaël, on n'a pas encore parlé du problème des règles, des menstrues pour les filles. C'est un vrai, vrai problème et un vrai frein à la scolarisation.
Oui, une fille sur 10 ne va pas à l'école quand elle a ses règles. D'abord parce qu'elle a honte et surtout parce que la plupart des établissements ne disposent pas de latrines séparées où les filles peuvent se changer dans le respect de leur intimité. Rendez-vous à l'école communale d'Abena avec l'UNICEF et Amina Ramadan de l'ONG École Saine Ménage Sain, où une trentaine d'élèves sont rassemblés pour un atelier de sensibilisation à la gestion des menstruations. Autant vous dire, Emmanuel, que parler de ces règles devant toute la classe, y compris devant des garçons, c'est pas évident.
Nous sensibilisons beaucoup plus les filles à partir de 12 ans. Ici, maintenant, à partir de 12 ans, la fille a déjà ses règles. Donc les filles de SEM, ici SEM2, CE. Quand une fille, surtout, a ses menstrues, elle a honte de venir à l'école parce qu'il y a beaucoup de stigmatisation autour des règles. Parce qu'ils disent que les règles sont impures, les règles sont sales, sont dangereuses. Et puis la fille qui a ses règles, elle dégage une mauvaise odeur, tout ça.
On rentre dans la salle de classe?
Oui, on rentre pour voir comment l'autre enceinte sensibilise les filles sur à la gestion de l'hygiène menstruelle. Merci.
Je pense que nous avons déjà commencé avec la leçon sur la gestion de l'hygiène menstruelle. Donc, les règles, c'est quoi? Oui.
Les règles est un phénomène naturel qui se produit au niveau du système reproducteur féminin au cours d'une période de 28 jours.
Voilà. Vous avez vu, certaines ont vu déjà leurs règles. Donc, comment pour gérer vos règles menstruelles? Oui, vas-y.
Oui, pour gérer mes règles à moi, telles que quand je suis à l'école et que je sens qu'aujourd'hui je peux avoir mes jours, donc j'apporte mes serviettes à moi. Et au fait, si la maîtresse est là, je viens, je trouve la maîtresse, elle m'amène à la direction. Il y a des poignes qui sont là à la disposition de tous les élèves. Donc je le prends et j'attaille cela, j'enlève la jupe, je lave, je les mets au soleil afin d'être séché, et après cela je change directement les serviettes.
Si j'ai taché, je pars à la direction pour demander les serviettes hygiéniques pour aller me changer aux toilettes.
Voilà. Est-ce que les règles sont une maladie? Les règles sont une maladie? Oui.
Les règles ne sont ni
une maladie, ni infection, ni une affection. Elles ne sont ni dangereuses, ni malsaines, ni sales. Elles ne sont ni honteuses, ni impures ou autres.
Vous les garçons, en classe, qu'est-ce que vous devez faire? Si vous avez vu votre camarade taché, quel est votre rôle?
Bon, selon moi, si l'une de mes camarades a eu ses règles, je vais m'approcher d'elle et je vais la dire, ma soeur, vous êtes tachée, allez-y à la direction et peut-être la directrice va la trouver une solution. Elle va l'aider à aller aux toilettes de s'échanger.
Même à l'école, nos élèves, nos garçons même là, on les a formés de ne pas se moquer des filles. Et qu'est-ce qu'on fait? Quand on porte des serviettes hygiéniques, il faut rentrer ou bien il faut faire cours? Oui.
On va revenir en classe pour suivre les cours avant de rentrer.
Oui, on ne doit pas rentrer. Donc les enfants ne restent pas à la maison. Donc c'est déjà une bonne chose. Nous vous remercions beaucoup.
Raphaël Constant, vous signez ce reportage sur les filles à l'école au Sahel. Comment en finir avec les inégalités? Vous avez assisté à cette réunion. C'est assez surprenant d'entendre ces garçons et ces filles, parce que la parole des jeunes sur des sujets comme ça, très sensibles, comme les règles, est-ce que cette parole est en train de se libérer? Les jeunes ont envie maintenant de parler de ces problèmes?
Justement, j'ai assisté à une réunion publique de quartier organisée par l'association La Voix de la Femme, une association qui œuvre à sensibiliser les filles à leurs droits et notamment en zone rurale. Et avec le soutien du ministère de l'Éducation, cette association mène des caravanes à la rencontre des chefs traditionnels et religieux pour les convaincre du rôle essentiel de l'éducation des filles pour l'ensemble de la communauté. Alors j'ai retrouvé la présidente Amina Tidjani dans le 7e arrondissement de N'Djamena dans le quartier de Chagua pour une causerie autour de l'éducation des filles. Et au fil des discussions, eh bien, on a vu arriver énormément de monde et pas que des jeunes filles, des enseignants aussi et des habitants du quartier, globalement très remontés contre le système scolaire tchadien et assez divisés sur les sujets de société concernant les femmes.
Nous sommes à la maison des quartiers des Chagua, dans le 7e arrondissement de N'Djamena.
Sur les murs, on voit des graffitis. Je vois, c'est écrit « La paix est la clé de tout développement ». Faites de la musique, il y a des couleurs bleues, jaunes, violets.
Il y a aussi des organisations qui viennent ici pour faire des activités avec les jeunes, pour leur sensibiliser par rapport à la cohabitation entre les musulmans, les chrétiens et tout.
Les femmes et les hommes.
Les femmes et les hommes aussi, oui, effectivement.
On avance?
Oui. Nous avons organisé avec la maison des quartiers de Chagua aujourd'hui, ce soir, pour venir rencontrer des différents groupes de filles pour discuter avec eux sur la non-scolarisation ou la non-éducation des jeunes filles. C'est ça l'objectif de notre présence aujourd'hui à la maison des quartiers de Chagua.
Bon, merci bien. Moi, c'est Djigum Karim. Le problème concernant l'éducation des filles est de plusieurs ordres. Il y en a qui ont la volonté de fréquenter, mais le problème, les vrais ennemis des filles, ce sont aussi les hommes. Il faut reconnaître. Moi, j'ai ma grande sœur, celle que je la suis directement. Elle a fréquenté jusqu'à arriver en deuxième année. Elle s'est mariée à un homme. C'est un intellectuel. Il est docteur généraliste même. Mais quand il l'a mariée, il a commencé à la maltraiter. D'abord, il a cassé son bras droit. Et c'était à la veille de la composition. Elles étaient en examen, il a cassé son bras droit. Les hommes là, ils sont aussi vrais ennemis des filles. Ils empêchent qu'elles évoluent comme ça. Merci beaucoup.
Ok, mingi bal daga taju be kalam nasara. Wan mishkila main dana kula naji kalam fiege.
Il dit, c'est vrai, il y a beaucoup de problèmes liés à la question de l'éducation. Il ne faudrait pas qu'on reste simplement à accuser les parents. La responsabilité des parents est liée beaucoup plus à leur ignorance sur l'école, parce que simplement, par le passé, les gens pensaient que l'école est réservée aux enfants des riches, et chefs et autres. Pour lui, il y a aussi une très grande responsabilité du gouvernement. Les parents n'ont rien, certes, mais il y a quand même des parents qui comprennent, ils envoient les enfants à l'école. Mais la responsabilité du gouvernement, c'est que le gouvernement ne fournit pas d'efforts. On crée une école d'un village et il y a une distance de 18 km entre un village et un autre. Et là, à ce niveau, comment les filles peuvent aller? Même nous, les garçons, on ne peut pas aller à l'école. Et si on part à l'école, c'est pour rester dans ce village où s'y trouve l'école là, pendant 2, 3, 4, 5 jours, peut-être même terminer la semaine avant de revenir. Et quel courage aurions-nous à continuer à fréquenter? Donc la responsabilité la plus grande est celle du gouvernement.
Ma maman, elle n'a pas été à l'école loin, mais elle m'a poussée à l'école, malgré que je fais le ménage, tout ça. Mais pour les études, elle ne s'amuse pas avec moi. Elle m'a poussée juste à l'université. Donc, moi, je peux dire que ce n'est pas seulement les parents, mais c'est aussi notre responsabilité, nous, les filles, d'abord. Mais il faut que le gouvernement aussi prenne conscience de ce qui se passe dans les ONG, dans les fonctions publiques, tout ça. On ne voit pas beaucoup de femmes. Donc on est négligé à tel point que nous-mêmes, on se sent gêné.
Gêné de réussir.
Voilà, on se sent gêné de réussir. Parce qu'une fille, elle a l'idée de réussir dans sa vie. Mais elle voit devant elle que tout ce qu'elle fait, il voit que c'est les hommes qui prennent leur place. Elle est intimidée. Elle s'enferme à elle-même. Elle ne peut rien dire. Je peux dire aussi que notre comportement vis-à-vis de nos enseignants, notre comportement vis-à-vis des hommes, dans notre lieu de travail, pousse l'homme de bloquer notre passage.
C'est des choses que vous avez rencontrées pendant votre scolarité, des hommes qui ont essayé d'abuser ou qui ont abusé, des violences ou des moqueries qui auraient pu vous pousser à arrêter?
Moi, parallèlement, dans mes parcours scolaires, de un, mes parents ne me laissent pas sortir. Je suis éduquée dans un milieu musulman et c'est pas facile qu'une fille sorte avec les garçons, s'amuser, tout ça, il n'y en a pas. Mais j'ai des enseignants, si, quand j'étais au collège, jusqu'à aujourd'hui, je peux dire que mon enseignant, pour ses physiques, mais je suis jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà 11 ans qu'il me suit, qu'il veut juste mon corps, mais il n'a pas trouvé.
Ça fait 11 ans,
11 ans.
Qu'il vous harcèle.
Mm-hmm. 11 ans. Mais il est marié. J'ai quitté le collège, je suis allée à l'université, j'ai fait mes études supérieures. Mais il ne cesse pas de m'appeler, il ne cesse pas de m'envoyer des messages. Mais je lui ai dit que ce n'est pas possible. Peut-être à l'école, je pourrais dire que peut-être quand je vais céder, il va me donner des notes pour peut-être ça. Mais quand je n'ai pas cédé, est-ce qu'il y a encore c'est possible pour le moment? Mais il me dit que tant qu'il y a la vie, il a déjà l'espoir qu'un jour, je vais revenir vers lui.
Vous en avez parlé à quelqu'un?
Bon. Non, je ne parle pas beaucoup plus de ces choses. Si c'est beaucoup plus avec mes copines, sinon c'est à vous aujourd'hui que je vous parle.
Et qu'est-ce qu'on vous a dit?
Bon, le problème est que si seulement j'étais encore à l'école, peut-être ça pourrait les inquiéter. Mais comme j'avais déjà quitté le collège, tout ça.
Mais ça ne vous a pas découragé à arrêter l'école?
Non. Je suis allée jusqu'à l'université. Quand à l'université, même les professeurs sont là partout, mais il suffit que toi, la fille, même là, tu te considères. Tant que tu te considères devant les enseignants, tout se passe.
Je m'appelle Aïssata Hassani Godoué, je suis sociologue de l'éducation. Donc, mes travaux portent principalement sur la scolarisation des filles et le genre au Niger. Je pense que la scolarisation des enfants et des filles a sensiblement progressé et continue de progresser au Niger. Le problème de la sous-scolarisation des filles, justement, c'est que c'est un phénomène qui est multifactoriel. Quand un parent estime que l'école n'est pas forcément de bonne qualité, parce que son enfant n'apprend rien à l'école, ce qui est quand même une réalité dans certaines écoles. Les enfants peuvent arriver en classe de CM2 sans maîtriser les bases. Donc ils ne savent pas bien lire, ils ne savent pas bien écrire. Et là, les parents ont l'impression de perdre le temps, ce qui n'est pas complètement faux, parce que en fait, ils vont envoyer leurs enfants à l'école. Et à la sortie, ces enfants-là ne pourront pas avoir un emploi. Ils ne pourront pas satisfaire cette promesse d'ascension sociale. Donc la scolarisation ne sert plus à rien dans ce cas-là. Les parents souhaiteraient en fait que leur fille aille à l'école de manière saine, que ce ne soit pas un lieu de perversion. Bon, l'école, de toute façon, permet une certaine émancipation. Et dans certaines régions, le fait qu'une fille parle trop, qu'elle soit revendicative. C'est pas forcément toujours bien accepté par les parents, et parce qu'à l'école on leur demande d'être présente, de s'exprimer. Et dans certaines cultures, on attend plus de la réserve de la part des filles. Donc c'est vraiment un phénomène où il y a plusieurs facteurs qui se conjuguent, et c'est ce qui fait que c'est un problème qui est difficile à résoudre en fait. Je pense que quand les parents prennent la décision de ne pas scolariser une fille, c'est parce qu'ils ne s'y retrouvent pas dans cette école. La scolarisation, c'est un temps long, on ne s'en rend pas compte, mais pour eux, c'est un gros sacrifice d'envoyer un enfant à l'école. Et si derrière, l'école ne leur permet pas de rendre ce sacrifice rentable, ça ne sert à rien.
D'autant plus pour les filles.
Oui, d'autant plus pour les filles.
D'après vous et vos études, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour toucher encore plus de franges de la population et donner plus d'accès à l'école à ces filles ?
Dans ce que j'ai vu, il y a des stratégies qui, pour moi, quand on implique les parents, en fait, dans l'école, ça paye vraiment. Il faut qu'ils soient vraiment présents, qu'ils aient un regard sur ce qui se passe en termes de scolarité. Ce n'est pas juste par le fait de savoir lire et écrire qu'ils peuvent apprécier la qualité de l'éducation, vraiment. Le fait qu'ils soient analphabètes, c'est un problème. Mais ce n'est pas... C'est-à-dire qu'ils peuvent s'impliquer par d'autres moyens. Moi, j'ai vu des femmes me dire que chaque matin, elles viennent à l'école pour pointer le nombre d'enseignants qui sont là, ceux qui sont absents. Quand il y a des enfants qui sont malades, elles vont dans les familles pour voir qu'est-ce qui se passe, ou qu'il y a des enfants qui ne sont pas venus. Elles vont chez les parents, elles vendent les repas, donc le goûter au sein de l'école. Pour moi, ça, c'est des initiatives qui sont vraiment très importantes. Une fois que les parents savent ce qui se passe, ils sont plus à même d'accepter, en tout cas, que leurs enfants aillent à l'école. En ville, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de problème de scolarisation des filles. Les parents ont intégré, pour eux, c'est normal d'envoyer une fille à l'école. Donc pour moi, ça, c'est déjà un gros progrès. Parce que si des parents ne se posent pas de la question de pourquoi on scolarise une fille, c'est énorme.
En termes de qualité d'éducation, qu'est-ce qu'il faudrait changer concrètement dans les programmes éducatifs pour inciter les filles à rester à l'école ?
Je pense que la qualité de l'éducation, elle vaut pour les filles, mais elle vaut aussi pour les garçons. Donc il faudrait que les programmes soient adaptés aux attentes du marché de l'emploi. Par exemple, pour les filles, qu'on les oriente aussi vers les filières scientifiques, parce qu'il y en a vraiment, vraiment peu dans ces filières-là. Ça passe aussi par la formation professionnelle. Au Niger, il y a un certain nombre de programmes où on leur donne des bourses pour leur permettre de poursuivre leur scolarisation. Il y a des choses qui sont faites. C'est peut-être pas assez, mais il y a des choses qui se font. Ça progresse aussi parce qu'il y a une vraie prise de conscience sur le fait que les filles sont en retard, qu'il faut les accompagner dans la scolarisation. Il faut promouvoir l'entrepreneuriat aussi. On est dans des pays où l'entrepreneuriat peut marcher, permettre aux jeunes aussi d'émerger, de se mettre à leur propre compte, mettre en place des dispositifs qui leur permettent aussi d'émerger. Donc,
Faire confiance à la jeunesse, finalement.
Exactement. Faire confiance à la jeunesse. Je pense que l'éducation est très liée à la question de la jeunesse. Voilà, c'est des politiques qui ne peuvent pas être déconnectées, en fait. Quand on met en place des politiques publiques en termes d'éducation, ça ne peut pas être déconnecté de ce qui va se passer sur le marché de l'emploi, ça ne peut pas être déconnecté de ce qui se fait en termes de jeunesse.
Raphaël Constant, on l'a entendu, l'accès à l'école des filles a plusieurs freins. Le développement de la scolarisation est considéré aujourd'hui comme une priorité de l'agenda international. Au Tchad, comme dans le reste de la zone subsaharienne, l'éducation des filles est inscrite dans les objectifs du développement durable au niveau mondial. Encore faut-il savoir maintenant quelles sont les pistes d'action qui ont émergé, notamment à l'issue de cette conférence à laquelle vous avez assisté, organisée par la francophonie en juin dernier. Oui, trois grands axes ont été développés. Mieux mesurer les données spécifiques sur l'éducation, les inscriptions, les taux d'abandon scolaire, les taux de réussite, etc. Mieux former les enseignants et développer les outils d'auto-formation, notamment sur Internet. Ça commence d'ailleurs au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Et enfin, mieux partager via une plateforme pour recenser les contenus et les ressources pédagogiques comme les bonnes pratiques. Autant dire que la montagne accouche un peu d'une souris et qu'avec ce genre de conférence, on ferait fonctionner beaucoup d'écoles sur plusieurs années. Donc. Ouais, il y a quand même un constat qui fait l'unanimité, Emmanuel, c'est qu'il faut mobiliser les parents dans le fonctionnement de l'école et agir sur la famille et la natalité. Rien qu'au Tchad, où l'éducation est aujourd'hui sous-financée, l'école doit accueillir 200 000 élèves de plus chaque année, alors que les infrastructures sont encore insuffisantes. C'est d'ailleurs un des sujets du G7, comme nous l'explique Edwige Adekambi Domingo, représentante du Fonds des Nations Unies pour la population au Tchad.
Il est important, donc, dans la perspective du Tchad qui s'investit pour sa vision 2030, le Tchad que nous voulons, qui est en lien avec les différents engagements qui ont été pris aussi bien au niveau mondial, l'agenda de l'Union africaine sur l'accélération donc de la capture du dividende démographique, la scolarisation, l'éducation des filles et l'autonomisation des filles, c'est le premier pilier. Et ce pilier n'est pas isolé. En agissant rien que sur le levier mariage d'enfants, nous pouvons réduire de 30% le croît démographique. Nous ne pouvons pas dire que le gouvernement du Tchad n'investit pas dans l'incitation. Mais une chose est d'inciter, autre chose est d'amener la fille à aller à l'école. Et le levier qui permet à la fille d'aller à l'école dépasse le niveau politique. Il est communautaire. Il est familial. Et j'ai eu le privilège de discuter avec des adolescents de 12 ans et qui ne comprennent même pas pourquoi il y a une loi qui a été votée qui interdit le mariage. Parce que, pour elles, elles ont été préparées toute leur vie dans cette fonction d'épouse.
Ça vous touche?
Parce que la femme a une dimension plurielle. Elle est épouse, mais elle est fondamentalement un maillon important du processus de développement social et économique dans les pays. Et donc, agir en fait sur le levier familial, sur le levier communautaire, pour amener en fait la famille et la communauté à comprendre que l'investissement qui est fait dans la fille pour son avenir est le meilleur investissement qui puisse permettre de transformer en fait le cycle de vie des populations est fondamental. Généralement, lorsque nous participons à ces grandes conférences, nous sortons souvent avec des recommandations qui veulent tout reprendre. Souvent, nous avons tendance à faire de nouvelles propositions, à créer de nouvelles plateformes qui, après, deviennent des problèmes, alors que nous pouvons bâtir sur l'existant. Comment le G7 peut s'investir avec les pays pour ne pas rentrer, en fait, dans ce cycle infernal de nouvelles propositions qui font perdre en fait des énergies et des ressources et qui n'aboutissent pas. Comment faire en sorte que ensemble nous bâtissons sur le potentiel des communautés, des familles pour que les filles soient effectivement scolarisées, bénéficient au même titre que les garçons des opportunités qui existent pour leur participation pleine donc au développement des différents pays. Il y a plusieurs filles aujourd'hui qui ont un potentiel très élevé et qui demain, si nous les accompagnons, à comprendre à travers leur famille, à travers elles-mêmes, que nos pays ont besoin d'elles, nous allons transformer l'Afrique et le Tchad. Je vous remercie.
Les filles à l'école au Sahel, comment finir avec les inégalités? C'était un reportage pour 7 milliards de voisins de Raphaël Constant, à la réalisation Sophie Janin, Steven Elsley. Demain, 7 milliards de voisins, on s'intéressera aux enfants d'expatriés, un tout autre monde. Ils ont des parents européens, africains, ils changent de pays, d'école, d'amis, de langue, de culture au gré des affectations de leurs parents. On les dit privilégiés, mais gèrent-ils cette mobilité non choisie si facilement que cela? L'expatriation est-elle une chance pour les enfants? C'est à vous de nous répondre, les voisins et les voisines, si vous avez vécu dans plusieurs pays ou si vos enfants vous suivent dans vos déménagements successifs. Appelez-nous surtout dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le WhatsApp. On compte sur vous. À demain.